Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, la France est-elle une nation littéraire? Avec nous depuis midi, l'écrivain-philosophe Régis Debré, auteur du Génie français, paru chez Gallimard. Et Anne-Marie Thiès, qui vient de nous rejoindre, directrice de recherche au CNRS, auteur de La création des identités nationales en 99, puis 10 ans après de Faire les Français. Elle publie aujourd'hui La fabrique de l'écrivain national chez Gallimard également. Un livre, enquête, essai à l'intersection du littéraire et du politique. Bonjour à vous, Anne-Marie Thiès. Bonjour. Merci à vous, Régis Debré, d'être resté avec nous. On évoquait Jacques Chirac, son décès, la figure de cet homme, de ce président de la République dans le journal de Thomas Cluzel ce midi encore. La nation est une fiction, vous n'allez cesser de nous le rappeler, peut-être jusqu'à 13h30, Anne-Marie Thiès. Elle a besoin d'incarnation. Régis Debré, en ouverture, juste, est-ce que Jacques Chirac, pour vous, avait une densité suffisante pour l'incarner, cette nation? Est-ce qu'il a fait partie de ces quelques présidents qui avaient un corps suffisamment dense pour incarner la fonction? Écoutez, et la nation?
Vous avez vous-même prononcé le nom de corps. C'est vrai que Jacques Chirac avait une présence physique imposante, rayonnante. Et par ailleurs, je pense que ce patriote cosmopolite était une très belle image de la France. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, pour moi, c'était celui qui rêvait d'un Occident qui ne serait pas impérial. Le pari est peut-être raté, mais il l'a tenté. Et je lui en suis très reconnaissant.
Il y a eu des moments dans son action politique où vous l'avez rejoint sur ses choix.
Effectivement, il m'a chargé de plusieurs missions. Une mission d'abord sur les coexistences religieuses au Proche et Moyen-Orient, ce qui m'a permis de passer un an ou deux dans cette région. Il m'a demandé d'aller en Haïti voir la question de la dette pour l'esclavage, etc. Et donc, j'étais pas de son bord, mais lui était de tous les bords, et notamment des bords lointains. Il s'occupait de pays et de situations qui n'intéressent plus personne aujourd'hui.
Vous avez cette formule en 2017 dans la revue des Deux Mondes à son sujet. Vous dites que c'était peut-être le dernier tiers-mondiste en activité, oui, à qui on pouvait parler de Haïti, du Guatemala ou encore du Swaziland sans qu'il regarde sa montre en marmonnant « Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Il ne vote même pas ».
Oui, oui, c'était chez lui une conviction. Ça a été, nous disons en ce moment adieu au dernier tiers-mondiste de l'Occident libéral et chrétien. Je trouve que ça mérite un coup de chapeau.
Anne-Marie Thiès, je ne sais pas si vous l'avez croisé, connu, Jacques Chirac. On avait tendance à l'opposer à François Mitterrand, justement sur la question des livres, des écrivains. Est-ce que Jacques Chirac était quand même un homme de livres à sa manière, Anne-Marie Thiès, Régis Debré? Dans Anne-Marie Thiès.
Alors, Jacques Chirac était connu pour afficher un air un petit peu inculte tout en étant extrêmement cultivé. En ce qui concerne son rapport avec François Mitterrand sur le plan de la littérature des écrivains, on peut remarquer que François Mitterrand n'a pas panthéonisé l'écrivain, alors que Jacques Chirac en a panthéonisé deux, ce qui est très rare. Ce qui est tout à fait exceptionnel encore.
Lesquels ?
Alors, Malraux, en 96, et puis Alexandre Dumas, en 2002, dans un contexte très particulier.
Qui le conseillait ?
Je ne le sais pas.
C'était son choix ?
Peut-être que Régis Debray pourrait nous l'indiquer.
Non, pas du tout. Je crois qu'il n'avait pas besoin de conseiller. D'abord, Malraux, c'était une question de fidélité gaulienne. Et Alexandre Dumas, c'était sans doute ce goût de mélange d'aventure et de légende qui fait partie, je dirais, de l'âme française.
Alors la panthéonisation d'Alexandre Dumas, c'était en 2002, contexte particulier, dites-vous Anne-Marie Thiès, c'était effectivement après le séisme politique. Il va lui rendre hommage à Alexandre Dumas à cette occasion dans un discours dont on va écouter un extrait. C'était donc en novembre 2002.
Le 19e siècle avait 2 ans quand il voyait naître 2 enfants qui allaient incarner l'esprit de leur temps et donner à la France 2 œuvres qui se confondent avec elle. L'un était Victor Hugo, l'autre Alexandre Dumas. Fils de 2 généraux de la Révolution, dont l'un n'était pas encore d'empire et l'autre ne le serait jamais, ils reçurent tous deux la liberté et l'amour de la France en héritage. Vivants, ils furent amis et frères. Morts, le cours de l'histoire les a séparés. L'un repose au Panthéon depuis plus d'un siècle et l'autre vient le rejoindre.
Victor Hugo, Alexandre Dumas, deux enfants, dit Jacques Chirac, deux enfants qui allaient donner à la France deux œuvres qui se confondent avec elle, Anne-Marie Thiès, deux visages aussi pour nourrir le récit national et le montrer dans toute sa diversité.
Oui, ce qui est intéressant avec la panthéonisation d'Alexandre Dumas, c'est que aussi bien le discours de Jacques Chirac, on n'en a eu qu'un extrait, que ce qui en a été après repris par la presse, c'est que ça met en évidence le fait que Alexandre Dumas a non seulement contribué par son œuvre et au niveau international à mettre en valeur le roman national, l'histoire nationale romancée, fictive, et les trois mousquetaires qui sont représentés au moment de cette panthéonisation. Mais c'est aussi le fait que Alexandre Dumas, par son corps même, on a parlé de corps tout à l'heure, mais là vraiment il s'agit de son corps au sens le plus physique, incarne la véritable France. Parce que ce qui est rappelé à ce moment-là, c'est que Alexandre Dumas était le petit-fils d'une esclave noire et que donc, à ce moment-là, il incarne la France de la diversité. Nous sommes en novembre 2002, et c'est 6 mois après le séisme de la présidentielle qui a vu au second tour Jacques Chirac et
Jean-Marie Le Pen.
Et Jean-Marie Le Pen.
Régis Debray, Alexandre Dumas, il a été dans les discussions de cette société des gens de lettres quand il a fallu définir, désigner un génie français. On évoquait avec vous dans la première demi-heure de l'émission le match Stendhal-Victor Hugo. D'autres ont été visiblement cités lors de ces discussions, mais pas retenus. Ça va de Molière à Pascal, en passant par Flaubert. Alexandre Dumas, pour vous, est un génie français ?
Un génie au sens littéraire, non. Expression du génie français au sens personnalité de base, au sens manière d'être, façon de se rêver, façon de penser, très certainement. Les Trois Mousquetaires, ça fait tout de même partie, Anne-Marie le disait tout à l'heure, du bagage minimal d'un petit Français d'aujourd'hui. Je crois que la SGDL en a discuté parce que, disons que la qualité littéraire, le génie littéraire n'est pas au rendez-vous. Le génie national y est.
C'est un écrivain national.
Pardon ?
C'est un écrivain national pour vous, Alexandre Dumas.
Il fait partie des écrivains nationaux. Mais je dirais que le feuilleton est une chose, le grand roman en est une autre. On ne peut pas comparer les Trois Mousquetaires et les Misérables.
Dans la fabrique de l'écrivain national, Anne-Marie Thiès, justement, vous vous interrogez sur les qualités nécessaires pour être ou devenir un écrivain national. Écrivain, on sait à peu près définir ce terme. National, en revanche, c'est plus compliqué. Quelle serait votre définition à vous de l'écrivain national, Anne-Marie Thiès ?
Alors, c'est une catégorie à multiples entrées. Hein. D'abord, c'est une catégorie qui est essentiellement masculine. Il y a très très peu de femmes, pour l'instant, qui ont été retenues. Ça peut changer. Alors, un écrivain national, c'est d'abord celui qui, à partir du 19e siècle, figure dans les histoires littéraires, puisque c'est à ce moment-là qu'elles sont constituées. Et donc, la plupart des écrivains nationaux le deviennent à titre très posthume, comme ceux des premiers chapitres de la littérature médiévale, par exemple. Un écrivain national, c'est quelqu'un qui est supposé illustrer la nation par son œuvre, la qualité de son œuvre, au niveau national et international, illustrer la langue au niveau national et international, représenter au mieux la nation, lui donner une image favorable, et puis aussi, en quelque sorte, l'incarner par sa vie et son œuvre, et voir son corps, comme c'est le cas pour Alexandre Dumas. Donc, cette question de l'écrivain national va recouvrir toute une série de cas, donc d'écrivains qui sont promus plus ou moins durablement, parfois très durablement, parfois de manière éphémère. On a par exemple le cas d'Anatole France qui a été promu comme écrivain national par la Troisième République. Donc ça a donné beaucoup de rues à Anatole France dans toutes les villes de France. Et puis il a eu un déclin rapide. Il y en a d'autres qui sont à durée très très longue. Bon, c'est le cas de Hugo, mais on a des écrivains comme Molière qui sont entrés très durablement dans la représentation.
Et pourquoi, si on prend l'exemple d'Anatole France, il y a eu ce déclin derrière, parce qu'il a su à un moment incarner ou dire quelque chose de son pays, mais sans s'inscrire dans l'histoire.
Dès l'enterrement d'Anatole France, il a suscité l'ire de la jeune génération et notamment
surréalistes.
Notamment les surréalistes avec ce texte fameux « Avez-vous déjà giflé un cadavre ?» dont l'auteur... Bon, Aragon, pour ne pas le nommer, a voulu après s'inscrire lui-même dans la série des écrivains nationaux. Son déclin est probablement lié au fait qu'il était représentatif d'un certain moment de la Troisième République et puis qu'il ne correspondait plus après aux valeurs qui évoluent. Mmh. Bon, ce que je voudrais dire aussi, souligner, c'est que l'écrivain national, c'est pas du tout une caractéristique de la France. Dans toutes les nations qui ont émergé depuis le 19e siècle, il y a un écrivain ou plusieurs, surtout écrivains nationaux, parce que pas de nation sans littérature nationale et pas de littérature véritablement valorisée qui ne soit, depuis le 19e siècle, rattachée à une nation.
Vous citez notamment la figure et l'influence de l'Écossais Walter Scott, emblématique d'un nouveau régime éditorial avec cette vogue du roman historique à l'origine de laquelle il sera. Et cette commande passée, Régis Debray, à Hugo, on lui a demandé d'écrire un roman à la mode de Walter Scott et ce sera Notre-Dame de Paris. Scott lui était véritablement un écrivain national.
Alors il a été un écrivain national, alors écossais, l'Écosse lui a rendu un hommage important. Et il y a un monument Walter Scott à Édimbourg qui est absolument spectaculaire, monumental. C'est quasiment une petite église gothique. C'est un écrivain du Royaume-Uni qui a été célébré dans tout l'espace aussi anglo-saxon. Il a une statue à Central Park, à New York. Et puis, c'est un écrivain qui a été un modèle universel, au moins dans le cadre européen dans un premier temps, et puis éventuellement même en Chine après, au début du XXe siècle, pour fonder en quelque sorte le roman moderne.
Qui a fait émerger un canon littéraire occidental.
Qui a permis l'émergence et la reconnaissance d'une nouvelle forme littéraire qui a eu un succès énorme, puisque le roman, comme l'a suggéré tout à l'heure Régis Debray, c'est véritablement la forme, le genre littéraire de l'âge national.
Est-ce que l'écrivain national a forcément un rôle à jouer dans la diffusion du sentiment national? Quand par exemple vous dites, Régis Debray, que Stendhal était un faucheton, qu'il n'était pas toujours prêt à porter aussi les valeurs ou les vertus de la France et de la nation française, qu'il disait que quand la musique française se joint à l'esprit français, c'est l'horreur, qu'il préférait l'Italie à la France, ce que vous rappelez. Est-ce que l'écrivain national a pour rôle de diffuser ce sentiment national et d'être un turiféraire de sa nation?
Alors, dans un certain nombre de cas, les écrivains assument, revendiquent cette mission et parfois le payent très cher. Il y en a certains qui l'ont payé d'années de prison ou de leur mort. Dans le cadre des nations émergentes, des nations dominées, alors dans le cadre de l'Europe, c'était les nations dominées par les empires qui émergent au XIXe siècle. Ça a été le cas ultérieurement avec les décolonisations. L'écrivain se dresse pour donner à la nation conscience d'elle-même. Dans le très beau texte de Frantz Fanon, Les damnés de la terre, il y a un appel à l'éveil, à ce que des hommes et des femmes, dit-il, se lèvent pour donner aux nations colonisées conscience d'elles-mêmes pour les appeler à se soulever contre l'oppression.
Mmh. Régis Debray.
C'est vrai que lorsque l'écrivain national peut être aussi un martyr de l'indépendance nationale, c'est le cas de Petőfi en Hongrie, de José Martí à Cuba, c'est vrai que c'est une canonisation... je dirais assuré. Mais comme l'a dit très bien Anne-Marie, l'écrivain national est une figure oxymorique parce qu'il doit être à la fois comme tout le monde et beaucoup mieux que tout le monde. C'est-à-dire qu'on doit à la fois s'identifier et vénérer. Donc c'est assez difficile. Mais je dirais qu'au fond, L'écrivain national, bien sûr, est une création de l'imaginaire, mais tout peuple a besoin d'un imaginaire, et que cet imaginaire, évidemment, dépend du moment historique où il est produit. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je pense que Balzac, par exemple, était dans ma jeunesse quelqu'un de considérable, parce qu'il y avait le marxisme derrière, parce qu'il y avait l'État, parce qu'il y avait le mouvement ouvrier, et que Lukács et Balzac, enfin, voilà. Aujourd'hui, dans une société très individualiste, de libéral libertaire, c'est normal que Stendhal soit au premier plan. Mais de toute façon, vous savez, l'écrivain national, c'est comme le génie national, c'est une réputation. C'est une réputation faite par l'étranger, c'est un peu ce que Proust disait de l'esprit des Guermantes. L'esprit des Guermantes, c'est une réputation comme les rillettes du Mans ou les biscuits d'Angers. C'est-à-dire, c'est un on-dit, c'est une façon d'être vu autant que de voir.
Mais est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise réputation?
En France? Pour la France? Oh, elle est souvent moquée, hein, je veux dire, elle est... Parler de la grande nation en Allemagne, on le fait avec un sourire, hein, je veux dire. Mais il est vrai que la nation littéraire, ça a été une marque déposée à un moment donné. Elle est plus très honorée aujourd'hui, mais enfin, ça reste un peu flottant. Mais c'est toujours dans le regard de l'autre, hein, qu'on voit quelle physionomie on a. Je dirais presque, je ne sais pas si Anne-Marie va me contredire, mais je dirais que un écrivain national, c'est largement le regard de l'autre qui le fixe.
Ça, c'est effectivement intéressant et c'est un point que vous développez aussi dans votre livre Anne-Marie Thiès, La fabrique de l'écrivain national. C'est qui fait la réputation? À qui revient-il de décider quand un écrivain est un écrivain national ou pas? Quelles sont les instances de légitimation, en somme, hein?
Alors, les instances de légitimation, elles sont évidemment nationales, mais très vite se mettent en place aussi des instances de légitimation internationale. Et ce qui est très intéressant, c'est que très vite est ratifié un principe d'une certaine trinité, c'est-à-dire qu'un écrivain national, c'est un écrivain qui est effectivement d'une exceptionnelle singularité, c'est un génie individuel. La littérature à l'époque contemporaine, elle a, comme tous les genres artistiques, elle a sa valeur par justement l'originalité et l'innovation. Donc un écrivain national, il est totalement original. Il est en même temps totalement représentatif, c'est une quintessence d'un esprit national. Et du coup, il accède à l'universel, il représente l'universel. Donc il est universel parce que national, parce que complètement singulier. Et cette trinité a été constamment énoncée, Gide en avait donné une très très belle définition, et c'est celle qu'on retrouve par exemple au principe du prix Nobel de littérature, c'est-à-dire l'idée qu'un grand écrivain universel est à la fois un grand génie singulier et le bon représentant d'un esprit national.
Elle avait théorisé l'universel littéraire, elle est décédée l'an dernier, la critique littéraire Pascal Casanova, sur cette question, celle de l'identité nationale des écrivains.
Je pense que, disons pas la France, mais disons Paris, a été une très grande puissance littéraire, en tout cas pendant tout le 19e siècle, et je pense au moins jusqu'aux années 60. Et que donc ça donne sur la littérature un regard très très particulier, c'est-à-dire qu'on est... en tant que, disons, français, pour dire très vite, des gens déclinants, qui ont moins de pouvoir qu'ils n'en avaient, mais qui, en ayant eu beaucoup, et ayant une sorte de très vieille expérience de capital littéraire très très ancien sur lequel s'appuyer, n'ayant rien à prouver, en fait, collectivement, en tant que littérature nationale, on a sur ces choses une sorte de distance, voilà, de sagesse, c'est bizarre, mais je crois que c'est quelque chose comme ça, qui fait que, on peut écrire ces choses-là parce qu'on est parisien ou français, qu'on n'aurait sans doute pas pu écrire en ayant une autre position dans le monde. Mais en sachant aussi qu'il faut être très prudent sur ces choses et que, bien sûr, il y a sûrement des biais nationaux, des choses comme ça qui font que, voilà, on est sûrement aveugle à d'autres choses qui sont des biais nationaux.
Voilà, vous aviez décentré le regard, Régis Debray, en parlant du regard de l'autre, du regard étranger, qui fait aussi l'écrivain national, si on repart de l'écrivain, si on recentre le regard, Anne-Marie Thiès. Vous êtes d'accord avec cette définition de Pascal Casanova, c'était en 2009 au micro d'Alain Weinstein?
Oui, bien sûr. Je rends hommage au travail remarquable qu'avait fait Pascal Casanova, notamment à propos de l'international des littératures nationales. Et elle avait bien montré que les littératures nationales forment un vaste ensemble qui s'est constitué à partir du 19e siècle avec l'idée justement qu'il y a une internationale, un universel des littératures nationales, mais qu'elles sont profondément inégales. Et au départ, il y a une double domination qui est celle de du Royaume-Uni et de la France, qui sont les grandes puissances en matière de création et de production, et puis les grandes puissances éditoriales qui vont dominer le monde pendant un siècle et demi à peu près. Et puis que, avec l'idée aussi, alors dans le cadre français, c'est que la domination française en matière littéraire étant ancienne, elle a été portée par la monarchie absolue, elle est très proche du politique, c'est que la France a un rapport très particulier à l'universel, c'est que c'est la France qui est le plus proche de l'universel. Bon, tout ça a été remis en cause par la montée en puissance d'autres littératures et, après la Seconde Guerre mondiale, à partir de la montée en puissance culturelle des États-Unis qui arrive avec beaucoup de puissance sur la nouvelle scène culturelle. Alors, la France ne renonce pas à son rapport particulier à l'universel, mais d'une certaine manière, elle le redéfinit progressivement. Et je pense qu'actuellement, dans les actions culturelles françaises, on voit cette idée que l'universel, au fond, c'est le respect de la diversité. C'est ce qui correspond d'ailleurs à la définition par l'UNESCO, à la grande déclaration par l'UNESCO du droit à la diversité, de la protection de la diversité. Il faut protéger la diversité comme on protège la diversité naturelle. Et donc, il y a actuellement une mobilisation de la France pour la protection de la diversité culturelle et littéraire, dans le soutien aux petites littératures, aux écrivains des petites littératures. Face à une production qui serait globale, commerciale et sans finalement grande valeur.
Régis Debray ?
Oui, là-dessus, il y a eu le prix Nobel. Le prix Nobel, il aime bien les Boy Scouts, donc c'est un peu difficile d'en parler d'un point de vue littéraire. Moi, il me semble tout de même qu'un écrivain national, c'est quelqu'un qui doit faire rêver, c'est-à-dire qui doit mettre en scène des personnages auxquels on a envie de s'identifier, n'est-ce pas ? Il y a un côté héroïque, romanesque, exemplaire, comme ça, des personnages mis en scène, qui doivent avoir une puissance, je dirais, onirique et exaltante. Je pense évidemment à Garcia Marquez, qui est l'exemple même, j'en parle parce que je l'ai bien connu, et on ne peut pas faire plus colombien, et finalement, on ne peut pas faire plus universel que lui, et c'est troublant de voir d'ailleurs comment, en Colombie, aujourd'hui, Garcia Marquez est le thème unificateur, n'est-ce pas, de toutes les tendances politiques, le président de la République en parle tout le temps, c'est une référence, n'est-ce pas. Or, c'est amusant, parce que c'était un homme qui était le contraire du pompeux, le contraire du solennel, c'était vraiment un homme facétieux, plein d'humour, mais il cristallise une fierté colombienne qui a été, comme vous savez, assez maltraitée par la toxicomanie. Donc oui, je crois que les peuples ont besoin d'une image spectaculaire qui les rende un peu plus grands qu'ils ne sont.
Oui, il y a cette idée qu'en célébrant l'écrivain national, la nation se célèbre elle-même.
Oui, c'est tout à fait ce qui se passe dans tous les cultes d'écrivains nationaux, et ils sont extrêmement nombreux. Et dans le cas français, nous avons les panthéonisations, même si les panthéonisations d'écrivains sont rares.
Elles sont rares, mais elles ont existé. Et les obsèques,
il y en aura une bientôt, le 11 novembre. Le 11 novembre 2019 sera panthéonisé Maurice Genevoix.
Et on a en ce moment l'acteur Francis Huster qui demande pressamment à Emmanuel Macron de faire entrer aussi Molière au Panthéon. Autre bataille pour incarner par la lettre la nation française. Alors il y a les panthéonisations, mais il y a aussi la question des obsèques nationales. On va écouter, si vous voulez bien, un extrait du journal télévisé 1980.
14h15, le cortège funèbre de Jean-Paul Sartre quitte l'hôpital Brousset. Dans la foule, Michel Rocard, Yves Montand, Simone Signoret, François Perrier. Simone de Beauvoir et les intimes de Jean-Paul Sartre ont pris place près du cercueil. La dernière marche de Sartre, la marche pour Sartre, commence. Solitaire cet homme-là ? Allons donc. Tantôt un fleuve a traversé Paris de part en part, à pas d'homme, le pas de milliers d'hommes pour un homme qu'ils ont aimé, pour un homme qu'ils ont suivi, qu'ils suivent ici pour la dernière fois. Concernant un écrivain, il faut remonter aux obsèques de Victor Hugo en 1885 pour avoir une idée de ce qui s'est passé à Paris cet après-midi. Sans aucun service d'ordre, la foule silencieuse et recueillie s'est emparée de la rue, créant de monstrueux embouteillages. Paris était à Sartre. Plus le cortège progressait dans le 14e arrondissement, plus le monde affluait, les trottoirs se remplissaient, le défilé digérant au passage la masse compacte de nouveaux arrivants et ceux qui avaient donné rendez-vous à Sartre au long de son dernier voyage. 10 000 à Brousset, 50 000 à l'arrivée, au moins. Une majorité de jeunes, mais toutes les générations sartriennes étaient là.
Aujourd'hui, qui aurait des obsèques nationales comme celle de Jean-François Régis Debray ?
C'est ce qu'on vient d'entendre montre à quel point c'est fragile tout de même l'écrivain national. Aujourd'hui, Sartre est à la poubelle. Il n'y avait rien de plus consensuel de dire que Sartre est un abominable totalitaire. Donc là, non, c'est vrai à quel point nos choix dépendent du moment, n'est-ce pas ? Alors, ne parlons pas d'obsèques nationales pour Sartre. Il y a eu des obsèques nationales pour Valéry, pour Colette en un sens. Pour moi, la plus belle, c'était celle de Valéry en 45. Des obsèques nationales officielles. Sartre, ça a été un mouvement spontané. À ne pas confondre avec Victor Hugo. Victor Hugo, c'est tout de même... Je n'aime pas les statistiques, mais enfin, entre 1 million de personnes et 50 000 personnes, c'est pas le même écho. Je ne peux pas dire que Sartre est une fonction d'écrivain national, même si, à l'export, si j'ose dire, il était aussi important que Brigitte Bardot.
Et pour Johnny Hallyday?
Ah bah Johnny Hallyday, c'est l'entrée dans la vidéosphère, hein, c'est-à-dire c'est le fait que c'est aujourd'hui l'image et le micro qui font les personnalités, qui catalysent et qui mobilisent aussi bien au-dedans qu'au dehors. Là, nous avons quitté la graphosphère et je doute que nous puissions y revenir en novembre prochain, mais peut-être qu'Anne-Marie est plus optimiste que moi.
En tout cas, vous vous interrogez aussi sur cette appartenance nationale des écrivains, Anne-Marie Thiès, à l'heure du numérique, à l'heure aussi du tout image, comme l'évoquait Régis Debray.
Oui, parce que dans la mesure où la nation se reconnaît un écrivain national, elle se reconnaît des devoirs envers la littérature. Et ses devoirs sont de soutenir les écrivains, de les aider à vivre, donc mise en place de législation de protection des écrivains au niveau national puis international, des institutions qui donnent des aides, des bourses, enfin des systèmes de promotion à l'étranger, et puis aussi l'idée de préservation de leur œuvre dans les bibliothèques. Et puis aussi, et c'est plus récent, des manuscrits. Alors ça, c'est quelque chose qui a été en quelque sorte inauguré par Victor Hugo. Victor Hugo, avant son décès, prévoit par testament que ses manuscrits, qu'il a soigneusement conservés toute sa vie, qu'il a promené toute sa vie dans ses divers déplacements, il va les donner à la nation, et notamment à la Bibliothèque nationale de France. Et c'est un moment inaugurateur parce que va se mettre en place l'idée que la nation, elle doit protéger ce trésor sacré des manuscrits nationaux. Et c'est le fait que se développent de plus en plus ensuite des institutions de conservation des manuscrits nationaux, avec parfois, dans le cas d'écrivains dont la nationalité est disputée, des écrivains universels dont l'appartenance nationale est disputée entre deux nations, des situations difficiles et parfois même des procès, comme le procès des manuscrits de Kafka qui a eu lieu tout récemment.
Et qui montre aussi les ambiguïtés de cette appartenance à propos de Kafka. Comment expliquer ou raconter ce désaccord au sujet du procès de Kafka ?
Oui, alors le cas du procès de Kafka est tout à fait représentatif quand même de cette question de l'appartenance nationale des écrivains, puisque Kafka, écrivain de famille juive, germanophone, qui s'exprime en allemand, vit à Prague et donc il est pendant une bonne partie de sa vie sujet de l'Empire austro-hongrois. Et puis il va mourir citoyen tchèque. Quand il meurt, il a très très peu publié. Son ami Max Brod se veut de Kafka, brûle tous mes manuscrits. Max Brod refuse de brûler, les protège, commence à les faire publier. Arrivée des nazis à Prague, Max Brod s'enfuit avec les manuscrits dans sa valise et il s'enfuit en Palestine où il continue à travailler sur la publication des manuscrits de Kafka. Bon, je passe les détails, le fait qu'il a Brod meurt, lègue à sa secrétaire ce qu'il possédait, et arrive la question de ces manuscrits qui sont mis en vente sur le marché et que l'Allemagne achète à prix d'or, puisque Kafka est devenu entre-temps le grand écrivain de langue allemande du XXe siècle. Mais l'État d'Israël les réclame aussi. Et donc se pose la question de savoir à quelle nation reviennent ces manuscrits, en quelque sorte sacrés de la nation, qui sont les écrits de Sartre. Alors, il a été décidé qu'il revienne à la Bibliothèque nationale d'Israël.
Régis Debray, vous êtes d'accord avec Anne-Marie Thiès sur cette idée qu'on gagnerait peut-être à rebattre les cartes d'identité nationale des écrivains ?
Non, je crois qu'il y a, si vous voulez, un basculement muséal et patrimonial de l'écrivain qui, comme Anne-Marie le rappelait, lègue ses œuvres à la bibliothèque ou aux archives nationales. Mais il n'y a plus d'incandescence, c'est-à-dire que, au fond, l'écrivain n'est plus une flamme, ce n'est pas encore de la cendre, c'est une relique. Il ne participe plus, je dirais, à l'effervescence collective. Il devient, je dirais, une valeur sacralisée. Elle n'est plus sacralisante. Je veux dire qu'au fond, voilà, ça devient un objet culturel, ce n'est plus, je dirais, un sujet social et politique. Mais voilà, on a changé de médiasphère et il faut maintenant se tourner vers les chanteurs, les acteurs et les animatrices de télévision. Vous irez dans une librairie et vous constaterez la nouvelle hiérarchie.
Dans les rayons des librairies, l'écrivain sacraliser cette figure-là, le manuscrit n'est plus une matière vivante, comme l'évoque à l'instant Régis Debray.
Alors, vous aussi, moi, je suis beaucoup, beaucoup moins pessimiste. D'abord, je pense que, c'est aussi triste à constater, que de par le monde, il y a encore des écrivains qui vont en prison pour leurs écrits.
Oui, et par l'aide de la France.
Ah oui, oui.
Parlait seulement de la France, bien sûr.
Alors, la France, heureusement encore, protège ses écrivains et leur évite tout délit d'opinion.
On protège
mais
les églises.
Il y a encore des pays où ça a une valeur importante. Il y a encore des pays où on fait des manifestations autour de statues d'écrivains. Il y a encore quelques semaines, il y a eu des grandes manifestations à Moscou autour de la statue de Pouchkine, qui est un grand lieu de manifestation depuis longtemps. Vous parliez de la Colombie, effectivement, par exemple, la référence à Gabriel Garcia Marquez et à son œuvre, c'est un moyen pour ce pays de surgir de décennies de guerre civile, de narcotrafic et de se rebâtir une image à l'international.
Mais quand même, est-ce que c'est pas la fin de l'écrivain national? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas passé à la figure de l'écrivain monde, de ce que vous dites l'un et l'autre sur ce temps présent depuis une demi-heure?
Alors, on est dans un phénomène de globalisation que le numérique accentue. Alors, justement, puisqu'on a parlé des livres et des dépôts tout à l'heure, bon, il y a quand même une ambiguïté, c'est-à-dire que le droit d'auteur, tel qu'il a été constitué à partir du 19e siècle, prévoit une propriété privée de l'écrivain et une propriété universelle. La nation ne possède pas l'œuvre d'un écrivain. Donc, quand l'entreprise Google a proposé de numériser les bibliothèques nationale, la question s'est posée de savoir si elle ne risquait pas de déposséder les nations de leur patrimoine littéraire.
Et là, ce serait la fin de l'écrivain national, la fabrique de l'écrivain national entre littérature et politique. Merci beaucoup, Anne-Marie Thiès. Votre ouvrage vient de paraître aux éditions Gallimard dans la collection Bibliothèque des Histoires. Ah, on n'a plus le temps, Régis Debray.
Non, juste pour dire une chose, l'avenir de la Terre, c'est le terroir.
Merci.
Du globish, c'est le français.
On en reparlera. Merci à vous, Régis Debray, du génie français. Votre essai a paru aussi chez Gallimard. Et un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table pour cette très belle semaine. Pour la Grande Table des idées, Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez. Pour la Grande Table culture, Oriane Delacroix et Henri Leblanc. Avec l'aide toujours précieuse de Sophie Marty et de François Bréhus à la réalisation aujourd'hui. C'était Gilles Blanchard avec Clément Dattet à la vidéo, Swad Boukorsa et Jordan Fuentes. Très bel après-midi sur France Culture.